Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux bases de la voile, vraiment les fondamentaux. Les manœuvres, comment on arrête un voilier, comment on part d'une plage, comment on arrive, comment on change de direction, bref, tout ça. Et pour ça, on a un document qui détaille justement ces techniques de base. L'idée, c'est de décortiquer un peu tout ça ensemble, de voir les points importants, les petites astuces pour naviguer plus facilement et en sécurité, surtout. Pour commencer, un truc qui paraît bête, mais arrêter un voilier, c'est pas juste appuyer sur un frein.
Ah non, c'est clair. Et ces manœuvres de base, c'est vraiment l'ABC du navigateur, quoi. Que tu veuilles faire une petite sortie tranquille ou une régate, si tu maîtrises pas ça, c'est compliqué. Chaque petit geste, chaque réglage, ça a son importance. Ça joue sur l'équilibre, le contrôle du bateau. C'est un peu la grammaire de la navigation, si tu veux. À la cape, on pourrait dire que c'est le point mort du voilier. L'idée, c'est de trouver une position où le bateau avance quasiment plus, mais il reste quand même manœuvrant, stable.
Ok, et comment on fait ça?
Bah, d'abord, tu te mets à peu près travers au vent ou un peu plus face au vent auprès, quoi. Et là, le truc clé, c'est de choquer la grand-voile.
C'est-à-dire relâcher l'écoute.
Exactement, tu laisses filer l'écoute qui la tient. Et tu fais pareil avec le hallebas, le bout qui empêche la bôme de monter trop haut. En faisant ça, la voile perd sa force, elle ne pousse plus. Et en même temps, il faut reprendre la bordure à fond.
Reprendre la bordure à fond.
Oui, ça veut dire tendre la partie basse de la voile au maximum. Ça l'aplatit et ça réduit encore sa prise au vent.
Donc, si je comprends bien, l'idée c'est de neutraliser la voile principale, mais de garder quand même un certain contrôle avec la position par rapport au vent.
C'est tout à fait ça. Le bateau va se mettre à dériver tout doucement, souvent un peu de côté, mais de façon contrôlée. C'est super utile pour attendre quelqu'un, pour faire une petite réparation, ce genre de choses. Mais attention, c'est pas une marche arrière.
Justement, j'allais y venir. La marche arrière sans moteur en voilier. Mythe ou réalité?
Ah non, c'est tout à fait faisable, surtout sur les petits dériveurs légers où la voile réagit bien. La technique, c'est un peu bizarre au début. Il faut pousser la bôme à contre.
À contre.
Oui, tu forces la voile à prendre le vent du mauvais côté, en quelque sorte. Normalement, le vent arrive par derrière la voile. Là, tu la forces à le prendre par devant. Du coup, au lieu de pousser le bateau, le vent agit comme un frein, et il peut même le faire reculer un peu.
D'accord.
Le point délicat, c'est la barre, le gouvernail. Faut être super doux, anticiper les réactions du bateau qui peuvent être un peu désordonnées. Mais oui, on peut utiliser la voile comme frein ou marche arrière, avec de la finesse.
Fascinant de jouer comme ça avec le vent. Bon, avant de s'arrêter, il faut partir. Parlons du départ de plage. Le document dit un truc intéressant. Ce départ est optionnel. Ça sonne un peu comme un avertissement.
C'est exactement ça. C'est un rappel hyper important. La sécurité d'abord. Optionnel, ça veut dire est-ce que les conditions sont bonnes? Le vent, la mer, la marée, est-ce que je me sens de le faire? S'il y a un doute, si les vagues sont trop grosses, le vent trop fort ou mal orienté, ben on reste sur la plage. C'est la décision la plus sage, avant même de penser à mettre à l'eau.
Il y a des trucs à vérifier, j'imagine, la petite checklist.
On peut dire ça, oui, la version nautique de la checklist. D'abord, la météo locale, les marées, c'est la base. Ensuite, tu regardes bien ton matériel. Le mât, les voiles, pas de déchirure, les cordages, les écoutes, les drisses, tout ça, tout doit être OK.
Et l'équipement perso aussi, j'imagine.
Évidemment, le gilet de sauvetage, bien mis, bien ajusté, la combi ou les vêtements adaptés, faut partir serein.
Ok, tous les feux sont au vert. Comment on s'y prend pour la mise à l'eau et le départ?
Le principe, c'est de partir le plus possible face au vent. Tu pousses le bateau dans l'eau jusqu'à ce qu'il y ait assez d'eau pour la dérive et le safran, évidemment. Si jamais tu dois faire une petite marche arrière au début pour t'éloigner du sable, ok. Mais assure-toi d'avoir pris assez de distance avant de laisser le bateau tourner et prendre son cap.
Et le document insiste beaucoup là-dessus, éviter à tout prix de partir au portant. Pourquoi c'est si important? Qu'est-ce qu'il y a de dangereux à partir vent arrière depuis le bord?
Ah, partir au portant, donc avec le vent qui te pousse direct dans le dos depuis la plage, c'est la quasi-certitude de perdre le contrôle tout de suite. Le bateau peut partir comme une flèche, devenir super instable, et le risque d'empannage, tu sais, quand la bôme passe violemment d'un côté à l'autre, il est énorme et immédiat.
Ah oui, je vois. Surtout s'il y a des rochers ou des gens.
Exactement. Donc la règle d'or, une, toujours essayer de partir face au vent ou auprès, avec le vent qui vient un peu de côté, mais plutôt de devant. Et autre chose, pas la peine de vouloir aller vite tout de suite. On laisse le bateau démarrer tranquillement, prendre son air, comme on dit. Vraiment, le message, c'est sécurité d'abord. Et face au vent, c'est la seule option sûre pour partir du bord.
Compris. Le contrôle avant la vitesse. Logique. Alors, L'inverse maintenant. L'arrivée sur cette même plage. J'imagine que les défis sont inversés. Quel est le but principal quand on vise le sable?
Le but numéro un, quand c'est faisable, c'est le même que pour le départ. Arriver avec le bateau le plus possible face au vent. Comme ça, le vent te freine naturellement, ça permet de ralentir doucement et de contrôler les derniers mètres nickel.
Et il y a des gestes importants à faire en approchant.
Oui, deux réflexes hyper importants pour pas casser le matériel et pour que ça se passe en douceur. Primo, relever le safran, la lame du gouvernail. Tu le mets à l'horizontale bien avant de toucher. Sinon, paf sur un caillou ou dans le sable et ça peut casser ou t'arrêter net.
D'accord. Et le deuxième?
La dérive. Tu la remontes petit à petit et puis complètement au dernier moment. C'est la quille mobile sous le bateau. Si tu la laisses en bas, tu vas t'échouer violemment. Le but, c'est que le bateau glisse sur les derniers centimètres, sur le sable.
Le document parle d'un cas particulier, le vent de mer, celui qui vient du large et qui pousse vers la plage. Là, arrivé face au vent, c'est mort.
Exactement. Si le vent souffle de la mer vers la terre, t'as pas le choix, tu vas arriver vent dans le dos, au portant. Ou alors éventuellement en marche arrière, contrôler si tu maîtrises bien la technique dont on a parlé.
Ok.
L'astuce, quand tu n'arrives au portant comme ça, c'est de te mettre en panne juste avant de toucher. Ça veut dire... Tu choques complètement l'écoute de grand voile, tu la laisses flotter librement, sans puissance. Le bateau finit alors en dérivant tout doucement, il n'est plus poussé violemment vers la plage.
Malin ! Et si ça se corse ? Genre grosse vague. Le doc parle de 70 cm. Là, on fait quoi ?
Ah là, ça change tout, oui. Avec des vagues importantes, plus de 70 cm, on va dire, essayer d'arriver face au vent, ou même juste de travers par rapport aux vagues, c'est hyper risqué. Le bateau peut se faire rouler, coucher par une vague, chavirer quoi. Ou se mettre en travers et être balancé violemment.
Donc,
la procédure de sécurité, c'est d'arriver absolument dans le sens des vagues. Tu surfes presque avec elles. Pour ça, tu choques les coudes de grand voile en grand, elle ne sert plus à rien sauf à pas gêner. Tu enlèves complètement la dérive, pour pas qu'elle accroche et fasse tourner le bateau. Et le truc le plus spectaculaire, juste avant de toucher le sable, l'équipage se met à l'eau sur les côtés du bateau pour l'accompagner, le stabiliser sur les derniers mètres de dérive. Ça demande du sang-froid, c'est sûr, mais c'est la façon la plus sûre de ramener tout le monde et le bateau en bon état quand ça brasse comme ça.
Carrément, se jeter à l'eau. On voit que la mer demande parfois des solutions radicales. Bon, on est parti, on s'est arrivé. Une fois qu'on navigue, il faut aussi pouvoir changer de direction. Le document parle du virement de bord et de l'empannage. Il distingue même les versions classiques et les bascules.
Effectivement, virement et empannage, c'est les deux manœuvres de base pour changer d'amure. C'est-à-dire faire passer le vent d'un côté à l'autre du bateau et donc changer de direction. Le virement, tu passes face au vent. L'empannage, tu passes dos au vent.
Et les bascules ?
Les bascules, c'est juste des virements ou des empannages où l'équipage bouge beaucoup, un mouvement ample et coordonné pour aider la voile à passer plus vite et pour relancer le bateau. C'est surtout utile quand il n'y a pas beaucoup de vent, quand la voile a du mal à passer toute seule.
Parlons d'abord du virement. C'est quoi son rôle principal ?
Le virement, c'est la manœuvre essentielle pour remonter contre le vent. Pour gagner du terrain vers là d'où vient le vent, on dit « gagner au vent ». C'est hyper stratégique en régate, mais aussi en balade si ta destination est face au vent. La technique, la vitesse à laquelle tu tournes quand l'équipage change de côté, comment tu règles les voiles, après ça dépend de la force du vent. Le but, c'est de perdre le moins de vitesse possible. C'est un virage contrôlé à travers l'œil du vent, en fait.
Et l'empannage, alors ? Celui qui fait souvent un peu plus peur, apparemment. Pourquoi cette réputation ?
Oui, il traîne cette réputation parce qu'il se fait vent arrière. Et si tu anticipes mal ou que tu manques de contrôle, surtout s'il y a pas mal de vent, eh ben la baume peut traverser le bateau d'un coup, avec une force et une vitesse impressionnantes. Ça peut être dangereux pour l'équipage, pour le matériel. Le bruit aussi, ça peut surprendre.
Le claque de la baume.
Voilà. Mais si tu le maîtrises bien, c'est une manœuvre très élégante et efficace pour changer d'amure en gardant de la vitesse quand tu navigues avec le vent plutôt arrière.
Alors, comment on fait pour le maîtriser, justement, pour éviter ce fameux coup de baume ?
La clé, c'est vraiment l'anticipation et le contrôle actif. D'abord, toujours, on regarde derrière, sur les côtés, on vérifie que c'est libre. Ensuite, on surborde un peu les coudes de grand voile, c'est-à-dire qu'on la tend un peu plus que d'habitude pour mieux contrôler le mouvement de la baume après.
D'accord.
Puis, on abat. On éloigne doucement le nez du bateau du vent jusqu'à ce que le vent arrive presque plein arrière. C'est là le moment critique. Tu déclenches le passage de la voile en donnant un coup de rein, un mouvement du corps, vers le côté où la voile doit aller. Ça s'appelle la contre-gîte, pour aider la baume à partir.
Et en même temps ?
Et en même temps, ça c'est crucial. Tu tires activement sur l'écoute pour accompagner et freiner le passage de la baume. Faut pas qu'elle prenne trop de vitesse, ni qu'elle se coince dans les haubans, les câbles du mât ou qu'elle s'enroule autour. Un bon empannage, c'est fluide, c'est contrôlé, grâce à la coordination entre celui qui barre et celui qui s'occupe de l'écoute.
Ce coup de rein et la traction sur l'écoute, ça semble être le duo gagnant. On comprend mieux pourquoi il faut être actif. Dernière série de manœuvres dans notre document. Passer un obstacle, genre une bouée de parcours. L'image utilisée est sympa. Serrer la bourrée à la manière d'un pilote de F1. Ça parle de précision, de trajectoire.
Oui, c'est une très bonne image. En régate, chaque mètre compte. Un passage de bouée bien propre, bien serré, ça évite de perdre du temps. Et ça peut même en faire gagner. En gros, il y a deux cas. Soit tu vas t'éloigner du vent après la bouée, abattre, soit tu vas t'en rapprocher, lofer.
Commençons par l'abatté à la bouée. On arrive et après la bouée, on doit aller plus vers le vent arrière.
C'est ça. Le but, c'est d'enrouler la bouée et de repartir sur ta nouvelle route au portant le plus vite possible. La prépa est essentielle. Juste avant d'arriver à la bouée, tu choques le hallebas.
Pourquoi le hallebas ?
Pour permettre à la baume de monter un peu. Ça laisse la voile twister, s'ouvrir en haut. C'est plus efficace quand le vent vient de derrière. Au moment où tu passes la bouée, tu abats franchement, tu tournes pour t'éloigner du vent et tu choques la grand voile en grand pour qu'elle se règle tout de suite sur la nouvelle allure. Pour aider le bateau à tourner et à glisser, tu relèves la dérive, ce qu'elle freine au portant. Et enfin, tu utilises la contre-gîte. Tu penches le bateau à l'opposé du virage, ça aide à serrer la courbe. La clé, c'est vraiment d'avoir préparé tout ça avant la bouée.
Et l'inverse, Lolo fait. On passe la bouée et on doit remonter vers le vent.
C'est le cas classique de la bouée au vent. L'objectif, passer la bouée et être tout de suite à la bonne allure, le prêt et avec une bonne vitesse. Encore une fois, anticipation. Avant la bouée, tu vérifies que ta dérive est bien basse, pour avoir une bonne accroche dans l'eau, pour pas déraper. Tu reprends la bordure et le Cunningham.
D'autres réglages de voile ?
Oui, qui jouent sur le creux de la voile. Tu l'étends pour aplatir la voile, c'est mieux pour remonter au vent. Au moment précis où tu passes la bouée, tu bordes la grand voile, tu la tires vers l'axe du bateau et tu l'offres. Tu diriges le nez du bateau vers le vent pour te mettre au prêt. Le plus dur, c'est de tout faire en même temps. Le coup de barre et la rentrée de la voile, pour pas trop ralentir, ni te planter face au vent.
Merci pour ce décryptage très clair. On a donc vu comment s'arrêter avec la cape et la marche arrière, comment partir et arriver d'une plage selon les conditions, les changements de direction avec le virement et l'empannage, et puis ces virages serrés autour des bouées. Ce qui ressort de tout ça, c'est quand même une exigence de précision technique assez forte, non Sam ?
Ah oui, complètement. C'est ça qui fait la différence entre subir le vent et l'eau, et jouer avec. Maîtriser ses gestes techniques, c'est la base. Pas seulement pour aller vite en régate, mais surtout pour la sécurité et la confiance de tout le monde à bord. Un petit réglage de voile, le bon moment pour tourner la barre, le placement de l'équipage, chaque détail compte. Ça a un impact direct sur comment le bateau réagit et si la manœuvre réussit. C'est un apprentissage permanent, en fait.
Et justement, au-delà de la technique pure, de cette séquence de gestes qu'on vient de décrire, il y a une question qui me vient pour la fin. Quelle est la part de l'anticipation, de cette capacité à lire ce qui se passe sur l'eau, le vent qui arrive, les vagues, les courants, dans la réussite de tout ça sur le terrain ?
Ah mais c'est le point essentiel. C'est ce qui transforme la technique en véritable art de naviguer. Connaître la théorie, savoir comment faire les gestes, c'est indispensable, c'est le socle. Mais la voile, c'est un dialogue constant avec un environnement qui n'arrête pas de changer. La vraie aisance, la fluidité, ça ne vient qu'avec la pratique, encore et encore, en essayant dans toutes les conditions. Petit vent, grosse brise, clapot, houle.
C'est l'expérience qui forge les réflexes.
Exactement. C'est cette expérience qui développe cette fameuse anticipation et sensation. Sentir la risée qui arrive sur l'eau, deviner le courant près de la côte, et qui permet aux manœuvres de devenir presque instinctives. La mer, elle demande de s'adapter tout le temps. Il n'y a jamais deux vagues pareilles, jamais deux rafales identiques. Savoir lire tout ça, anticiper comment le bateau va réagir et ajuster sa manœuvre en conséquence, c'est là toute la beauté et la complexité de la navigation. C'est un savoir qui se construit sur l'eau, bien plus que dans les livres finalement.